voir d'abord la première diapo. Alors, c'est juste un petit rappel pour que vous sachiez que le CCWG est sur la responsabilité et l'un des groupes principaux qui surgissent à partir de l'annonce de transition du rôle de supervision de Santayana par la NTIA. Alors, ce groupe est intégré par une communauté qui devra faire une présentation d'une proposition à l'ICG qui va étudier les propositions et consolider une proposition finale. Alors, une fois que ces propositions seront conclues, elles seront présentées aux organisations membres et à l'AICAN qui à la fois remettra la proposition consolidée à la NTIA pour que la NTIA considère cette proposition consolidée. Alors, on passe au transparent suivant. Bien. Vous avez ici encore un rappel du rôle de votre groupe, qui est de renforcer la responsabilité de l'AICAN envers les différentes parties prenantes. C'est-à-dire que nous avons la tâche d'identifier les mécanismes qui devraient être en place, qui devraient être renforcés pour cette transition du rôle de supervision de la NTIA. En vertu de notre rapport, de notre relation avec le gouvernement des États-Unis, nous avons préparé une première version de notre proposition. Alors, nous sommes en ce moment dans la ligne de travail numéro 1 et il y aura une ligne de travail numéro 2 qui se centrera sur la consolidation des propositions et bien sûr, nous ne sommes pas à ce point-là pour l'instant. On passe au transparent suivant. Merci. Notre groupe est un groupe assez grand. Et on a eu une participation significative. L'approbation de la charte a eu lieu en début décembre 2014. Et notre groupe travaille déjà depuis 5 mois. Et on a eu des réunions clés à Francfort en janvier, à Singapour en février et à Istanbul en mars. Et bien sûr, on sent à ce point-là qu'on est à un bon moment pour avoir des contributions de la communauté concernant nos premières réunions. C'est cela qui nous importe. Alors, je voudrais souligner que pour nous, c'est un aspect très, très important de notre travail. Alors, on essaie d'engager la communauté pour que tout le monde comprenne clairement ce qu'on essaie de faire et également, bien sûr, on serait prêt à recevoir les commentaires qui seront présentés. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but principal de cet appel. Alors, je vous rappelle tous en même temps quelque chose qui était expliqué dans notre rapport, qui est qu'on attend des recommandations en ce moment, mais on n'a pas formulé nos propres recommandations. On vise à recevoir les contributions de la communauté concernant différents aspects, et on sera prêt pour recevoir les commentaires donc, de la communauté et les intégrer à notre rapport par la suite. Le rapport initial dont je veux parler inclut une liste de questions sous forme de consultation publique. Et ce document comprend également une liste de graphiques qui seront présentés le long de ce séminaire web pour vous permettre de mieux comprendre les différentes propositions. Voilà donc la déclaration introductoire. Je voudrais que l'on explique brièvement quel est le plan de ce séminaire web. Pour le groupe, on prévoyait de vous présenter ici un nombre de transparents et puis vous poser certaines questions à la fin de chaque présentation de transparents. De toute façon, on aura une séance de questions-réponses à la fin de l'appel pour pouvoir discuter des préoccupations principales, des questions de plus intérêt une fois qu'on aura déjà fini avec notre présentation. Alors, si vous avez besoin de précisions, vous pouvez les demander à la fin de la présentation de chaque transparent et on aura une séance de questions-réponses à la fin de l'appel. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous servir de la salle de chat Adobe Connect pour lever la main avant de prendre la parole. Y a-t-il des questions concernant ces remarques introductoires? Il me semble que non. Ah, je vois que Kavous lève la main, Kavous est resté. Bien, vous allez commencer avec les questions, allez-y. Kavous prend la parole, bonjour tout le monde. Je voudrais vous demander si ce séminaire compte discuter ou faire référence à la lettre qui vous a été envoyée en tant que co-président par la NTIA au sujet de l'échéancier qui avait des références et des paragraphes spécifiques qui disaient, qui comprenaient le temps, qu'il fallait que l'on comprenne les périodes de temps nécessaires pour pouvoir conclure votre travail et pour la mise en place de ces mesures recommandées. Donc ce serait utile pour l'ICG, bien que l'ICG n'ait pas de connexion avec le CCWC de la responsabilité, mais que ce serait utile pour la communauté des noms d'avoir une idée de ces délais. D'autre part, je voudrais que vous parliez de la question et de l'implication juridique de la possibilité d'avoir différentes unités constitutives ou différents groupes qui fassent partie en tant que membres intégrants de ce modèle et s'il devrait y avoir un autre modèle pour que les non-membres créent d'autres associations non établies avec la communauté des noms. Ce n'est pas très clair pour nous. Si vous parlez du GAC ici ou de qui vous parlez, lorsque vous parlez de personnes non membres qui voudraient créer différentes structures pour s'occuper du même. Je sais que vous n'avez peut-être pas pensé, mais c'est important pour nous de comprendre particulièrement de qui vous comptez parler à travers cette remarque. Merci. Thomas reprend la parole. Merci qu'à vous. Je pense que ces deux questions sont en fait répondues à travers notre présentation. On a prévu de présenter notre échéancier le long de cet appel. Pour ce qui est de l'unité constitutive, c'est sans doute une question qui sera présentée, mais si ce n'est pas le cas, au moins on pourra reprendre ce sujet à la fin de l'appel, dans la discussion générale. Cela dit, je voudrais donc maintenant que l'on donne la parole à Thomas Rickert, qui présentera la prochaine partie de l'appel. Thomas Rickert prend la parole, merci. Je suis l'un des trois coprésidents du CCWG. Le troisième coprésident, Léon Sanchez, va vous parler un peu plus tard dans l'appel. Et nous nous sommes partagés cette charge de vous présenter notre travail avec des rapporteurs excellents. Donc vous allez entendre différentes voix le long de cet appel et vous allez recevoir des comptes rendus directement de la part des personnes qui ont travaillé sur les différents domaines de préoccupation. Alors, je voudrais que l'on voit la diapositive numéro 4 qui montre les briques, comme on les appelle. Ce sont les différentes composantes. Et je voudrais vous raconter comment ces différentes composantes sont surgies de notre travail. Alors, on s'est dit que ce serait une bonne idée de considérer quels sont les mécanismes de responsabilité que l'ICANN a déjà. Donc, on a créé un répertoire des mécanismes de responsabilité existants de l'ICANN pour mieux comprendre ce qui existe. Et puis, par la suite, on comptait analyser quels étaient les secteurs ou les aspects qu'il fallait améliorer et renforcer. D'autre part, on a considéré ce que la communauté avait déjà soumis à la question de la responsabilité de l'ICANN. Et vous vous souviendrez qu'une fois que la NTIA a fait son annonce en mars de l'année dernière, l'ICANN a ouvert une période de consultation publique pour demander à la communauté ce qu'ils voudraient voir comme structure pour la CAN, comme mécanisme, ce que la CAN devait changer pour que la CAN soit une organisation plus ouverte, qui rende davantage le compte. Donc, on a considéré et intégré les souhaits de la communauté pour les intégrer, pour les analyser, et notre groupe a conclu que chaque demande de responsabilité qui nous avait été présentée devait être abordée, prise en charge à travers une interaction claire entre quatre secteurs de l'architecture de la responsabilité. On s'est dit en même temps qu'il fallait que l'on considère les structures de responsabilité existantes, qui avaient été une réussite, et si l'on regardait les gouvernements qui travaillaient avec succès, on trouvait toujours ces quatre composantes qui existaient au sein de la CAN et que l'on voulait renforcer. Donc dans le graphique, vous voyez que d'une part, on avait le renforcement de la communauté autonomisée, ce qui parle en définitive des pouvoirs qui permettent à la communauté de pouvoir opiner par rapport au conseil d'administration de la CAN. Puis on a le conseil même qui représente l'entité exécutive contre laquelle la communauté peut s'opposer. Puis on a les principes qui forment la mission, les garanties et les valeurs fondamentales de l'organisation. Et puis les mécanismes de révision indépendante, comme par exemple le judiciaire. Alors voilà les quatre composantes que nous voudrions que vous connaissiez. Et à mesure qu'on avancera, vous verrez que ces quatre structures seront et pourront être utilisées selon notre organisation pour renforcer les structures, les mécanismes de responsabilité existants. D'autre part, ces quatre blocs existent, ce qui veut dire qu'on a essayé de pouvoir renforcer la sécurité de la CAN à travers les exigences qu'on nous avait présentées. Une fois qu'on a donc identifié ces quatre structures clés, on a essayé de considérer les outils nécessaires, sans considérer la mise en place des outils. Mais il y avait une question qui apparaissait à chaque reprise, qui était comment empêcher la CAN de mesurer des intromissions dans des domaines où il n'était pas nécessaire, où il ne devait pas apparaître. Alors, on a considéré comment faire pour faire fonctionner ces exigences. On a maintenant donc établi les exigences, le code, et nous avons travaillé sur des moyens pour pouvoir accomplir les buts des exigences. Et nous avons également travaillé sur la mise en place juridique pour pouvoir appliquer tout cela. Et c'est de cela que nous allons parler dans le transparent suivant. Alors on passe, si vous voulez, directement au transparent suivant. Alors la question était comment peut-on garantir de ne pas miner les garanties pour la communauté en travaillant sur ces exigences de renforcement des mécanismes de responsabilité. Le conseil d'administration pourrait bien sûr éliminer ces mécanismes à travers une décision du conseil d'administration de modifier les statuts constitutifs en éliminant les mécanismes de responsabilité pour la communauté de la CAN et ses demandes. Alors des fois on parle de modification des statuts constitutifs. Dans ce cas-là, on a commencé à parler de statut constitutif doré, comme on l'a appelé, c'est-à-dire que c'est un effort un peu plus tangible qui est composé donc de statuts constitutifs fondamentaux qui sont considérés d'une importance telle qu'ils ne peuvent pas être modifiés facilement par le conseil d'administration de la CAN. Alors, ce sont des articles des statuts constitutifs qui devraient être modifié par la communauté. C'est ce pouvoir que la communauté va exercer. La communauté doit approuver ces modifications. Alors, il est important donc de comprendre qu'il y aura deux types de statuts constitutifs. Les statuts constitutifs ordinaires qui peuvent être modifiés par le conseil d'administration et les statuts constitutifs fondamentaux qui ne peuvent être modifiés que si un seul de la communauté les approuve ces modifications. Donc il faudra travailler avec la communauté pour pouvoir les modifier. Puisqu'ils peuvent de toute façon être modifiés, l'ICANN aura toujours la possibilité de mettre en œuvre des modifications de politique dans l'avenir, des modifications qu'on ne connaît toujours pas. Alors l'idée de créer ces statuts constitutifs fondamentaux serait de comprendre différentes valeurs clés. Le processus de révision indépendante lui-même pour pouvoir assurer que le processus de révision indépendante ne pourra pas être éliminé de façon toute seule parce que cela constituerait un outil de révision du conseil d'administration, d'évaluation de si le conseil d'administration suit ou pas ce qu'il faut qu'il fasse, puis la mise en place de modifications fondamentales au statut constitutif et les modifications au statut constitutif fondamentaux. Cela vise à empêcher que le Conseil modifie les statuts constitutifs fondamentaux pour que les statuts constitutifs ne soient pas modifiés pour pouvoir changer les obligations du Conseil d'administration. Donc, cela fera partie des statuts constitutifs fondamentaux. D'autre part, on a les révisions qui sont demandées par le CWG, qui est un autre groupe de travail intercommunautaire, sur les révisions de la fonction. C'est-à-dire, les fonctions, il y en a. C'est-à-dire que ces statuts constitutifs ne peuvent pas être modifiés. Et puis, on a de nouveaux pouvoirs de la communauté que l'on va discuter dans quelques instants, comme la possibilité de renverser, de révoquer le conseil d'administration. Et puis, on a un ensemble de règles qui sont également importantes, qui seront intégrées au statut constitutif et qui ne pourront pas être modifiées facilement. On passe à la diapo suivante. J'ai déjà parlé du pouvoir de la communauté, d'une communauté autonome. Lorsqu'on parlait de la communauté, on a donc parlé d'une communauté autonome dans le sens du rapport historique avec le gouvernement des États-Unis qui pourrait demander à l'ICANN d'agir d'une manière ou d'une autre et dire à l'ICANN que si elle ne respecte pas ce mandat, elle pourrait bien sûr se rendre à l'IANA et enlever ce pouvoir de contrôle de l'IANA de l'ICANN. Alors, on a pris le pouvoir du gouvernement de l'États-Unis, on l'a rendu à la communauté. C'est ça, en définitive, ce qu'on ferait à travers ce mécanisme. Alors, il faut qu'il y ait des mécanismes de responsabilité qui soient acceptés, qui soient mis en place pour assurer que cet article numéro 6 soit toujours respecté. Voilà, ici, donc, le pouvoir de la communauté d'accepter ou de reconsidérer ou de rejeter le budget de la CAN, puis de reconsidérer, rejeter les changements au statut constitutif normaux, aux standards de la CAN, puis d'approuver les modifications au statut constitutif fondamentaux, le pouvoir de la communauté de révoquer le rôle des différents administrateurs ou directeurs de la CAN, les membres du conseil d'administration, et puis de renverser le conseil d'administration complet. Il nous semble qu'au début, vous vous souviendrez que Mathieu parlait des lignes de travail 1 et 2. Eh bien, il faut que ces demandes de la communauté soient intégrées à la ligne de travail numéro 2 pour nous aider à assurer que les différentes lignes de travail 1 et 2 seront assurées, seront suites, mais également que le travail, la ligne de travail numéro 2 va intégrer le travail de la ligne de travail numéro 1. Que ce travail soit intégré et pas ignoré par les dirigeants de l'ICANN. Alors, à travers ces mécanismes, la communauté aura le pouvoir nécessaire pour pouvoir travailler avec la communauté et assurer que les nécessités de la communauté seront couvertes. À travers ce type de mécanisme, on pourra savoir certainement ce que fait la communauté. Alors, nous avons élaborer différentes voies de remise et d'exercice des pouvoirs de la communauté. Nous allons voir cela dans les diapos suivantes. Et Jordan Kappa Le rapporteur de cette partie du travail va maintenant vous montrer les diapos sur l'autonomie et les pouvoirs de la communauté. Jordan prend la parole. Merci Thomas, je suis Jordan de la communauté du CCDLD. Je vais vous fournir certains détails de plus sur ces aspects du pouvoir de la communauté à travers les diapos suivantes. Le premier pouvoir de la communauté, porte sur donc un pouvoir de la communauté qui vient du travail qui a été fait l'année dernière. Tous ces pouvoirs que je présenterai maintenant viennent de ce travail qui a été fait l'année dernière à partir des différentes suggestions sur l'autonomisation de la communauté que nous avons fait l'année dernière. On a essayé de définir les pouvoirs de la communauté d'abord et ce travail, donc, comme je dis, nous est venu des suggestions de la communauté de l'ACAN. Le premier pouvoir était de donner à la communauté le pouvoir de pouvoir rejeter un budget ou de le reconsidérer. Et c'est ce dont parlait Thomas. La débute ici était d'avoir davantage de pouvoir sur les décisions de la CAN. Une fois que le Conseil aura approuvé ou rejeté un plan, la communauté aura la possibilité de le revoir. Si le budget a été accepté, mais la communauté n'est pas contente avec ses contenus, elle aura la possibilité de voter, de rejeter ce budget en justifiant la décision. Et donc, par la suite, le Conseil d'administration va devoir réviser cette décision avec la justification correspondante. Ce qui est important ici est que la communauté devra soulever toutes les inquiétudes en une fois. Elle ne peut pas rejeter systématiquement le budget. Mais donc, comme vous voyez, à partir du schéma qui est inclus dans cette diapo, le rejet va exiger des fondements de décision. Alors, ce premier pouvoir de la communauté implique que le conseil d'administration a une incentivation d'inclure la communauté dans le processus d'élaboration du budget et d'intégrer les suggestions de la communauté par rapport au budget, parce que la communauté aurait la possibilité donc de rejeter ce budget. Il pourrait être plus difficile pour la communauté d'approuver le budget s'il ne comprend pas ce qui a été demandé. Alors, on a ici différentes listes. Alors, on passe à la diapo suivante. Alors, pouvoir numéro 2 de la communauté, reconsidération de la décision de faire des modifications au statut constitutif de la CAN. Le conseil d'administration aurait la possibilité de proposer des modifications au statut constitutif et cela va constituer une décision de la communauté, l'approbation de la communauté des modifications au statut constitutif. Si le conseil d'administration fait des modifications au statut constitutif, la communauté aura la possibilité de les réviser, de les considérer avant qu'ils aient été acceptés et mis en œuvre. Ce qui veut dire que les modifications des statuts constitutifs ne seraient pas effectives que par l'action du conseil d'administration. La communauté va devoir accepter ces modifications. Alors, ces modifications pourraient être controversées et ne pas être accepté. Et donc, si ces modifications ne sont pas acceptées, elles seront rejetées par l'action de la communauté même. Le conseil d'administration va devoir s'assurer que les modifications soient acceptées par la communauté avant d'être mises en œuvre. Puis, d'autre part, on a un autre pouvoir de la communauté ici, c'est le numéro 3, merci. Et cela diffère un peu. Thomas a parlé déjà de cette idée des statuts constitutifs fondamentaux qui devraient être plus forts ou plus importants en termes de pouvoir constitutionnel. Ce sont des statuts constitutifs d'une importance plus significative, comme par exemple la possibilité de faire des modifications au statut constitutif. Dans la diapositive suivante, je parlais du pouvoir de faire des modifications, d'apporter des modifications au statut constitutif de la CAN. Ici, c'est un peu différent. Ça veut dire que lorsqu'on demande de faire des modifications à une exigence fondamentale, il va falloir que le conseil d'administration soit d'accord, puisqu'ils vont apporter ces modifications significatives, et que la communauté soit également d'accord. Donc ce sont des modifications qui sont proposées pour les statuts constitutifs fondamentaux. Pour les modifier, la communauté va devoir approuver ces modifications à travers un mécanisme. Tout comme, bien sûr, le conseil d'administration devrait avoir également les 3/4 des votes pour. Alors, si on élargit ou on approfondit le pouvoir de vote de la communauté, cela va autonomiser bien sûr le travail. Les trois quarts de la composition des membres donc, du conseil d'administration vont devoir accepter ces modifications et la communauté aussi pour pouvoir assurer qu'ils vont s'impliquer avec tout ce que c'est la CAN, que la communauté sera toujours intégrée, que les valeurs fondamentales et que la mission de la CAN soient respectées aussi. Donc cela ne serait pas pour toutes les clauses ou tous les articles des statuts constitutifs, mais simplement ceux qui sont considérés essentiels. On passe alors à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, on parle de la possibilité de révoquer certains membres du conseil d'administration. L'idée ici est de dire que si une unité constitutive n'est pas contente avec le rôle des directeurs, d'un membre du conseil d'administration, elle a la possibilité de le révoquer de son poste. La révocation d'un membre du conseil d'administration est d'habitude faite par le même organe qu'il a désigné. Mais dans ce cas, c'est dans le cas où, par exemple, un membre du conseil est soutenu par la GNSO et par la communauté à large, qui désigne des membres du conseil d'administration. S'ils ne sont pas contents avec le travail de ce membre du conseil d'administration, ils ont la possibilité de le révoquer. L'un des détails qui a été discuté lorsqu'on demandait de recevoir des contributions de la communauté était qu'il était commun d'avoir des contributions de la communauté à ce sujet. On se demandait si la communauté devait contribuer avec les statuts constitutifs ou pas, et voir si on devrait travailler sur un cadre minimal d'obligations et de rôles dans les statuts constitutifs, ou si on devait simplement définir ces fonctions qui devraient être assurées. On n'a pas de normes, de standards qui doivent être mesurés ici, mais nous sommes conscients qu'il y a différentes organisations qui intègrent le conseil d'administration à travers leurs membres et qui devraient avoir donc le pouvoir de pouvoir justement révoquer des membres du conseil d'administration. Donc ici, on passe à la diapo suivante sur les membres de la communauté. Ce principe exigé par la communauté, c'est par exemple pour un homme comme qui aurait la possibilité ici de révoquer des membres individuels du conseil d'administration. Alors, on propose un niveau assez haut de consensus ou de soutien pour pouvoir révoquer le directeur ou le membre du conseil d'administration correspondant. Alors, pour les rapports, on a différentes options pour accomplir les obligations et pour pouvoir révoquer les membres du conseil d'administration. Ça va dépendre des fondements, des justificatifs justement pour la révocation de ce membre. Mais ici, ce qui nous occupe est la possibilité de révocation des membres. Donc le NOMCOM pourrait décider de révoquer un membre du conseil d'administration s'il ne respecte pas les rôles pour lesquels il a été élu. Donc voilà ce qui est des membres individuels du conseil. Maintenant, on passe à la diapo suivante.
Pour donc limoger le conseil de l'ICANN dans son ensemble, pas seulement son PDG, et voilà la proposition pour donner à la communauté ses fonctions, cette possibilité, et pour que un de ses membres, il faut qu'un de ses membres soit dans ce groupe. Nous avons la demande de limoger l'ensemble du conseil. Il y aura une période de discussion jusqu'à ce que cette décision soit prise. Ensuite, on votera sur la question. Et si l'on décide de limoger l'ensemble du conseil, 75% doit être des votes, doivent être pour. Et la raison pour cela, c'est que nous considérions ce serait un problème si le CCWG pouvait avoir ses fonctions si élevées qu'il serait presque impossible de limoger le conseil, parce que c'est un pouvoir, lorsqu'on regarde, c'est un pouvoir très important. Et en même temps, limoger l'ensemble du conseil serait une étape très importante pour la communauté. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'avoir cette quantité de votes. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous expliquer. Et je vais donner la parole maintenant à Thomas. Et si vous avez des questions à ce stade, nous pourrons y répondre. Merci beaucoup, Jordan, pour cette présentation des compétences de la communauté. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que Jordan vient de présenter? Je ne vois pas de main levée, ce qui nous permet de passer à la diapo suivante. Et vous attendez probablement des suggestions concernant la partie légale pour permettre à la communauté d'avoir accès à ses pouvoirs. Et c'est Léon Sanchez, le troisième coprésident, qui va nous en parler. Léon, vous avez la parole. Bien. Il y a de nombreux modèles en discussion dans le groupe concernant la manière de structurer les différents modèle qui permettrait à la communauté d'appliquer ce pouvoir et de mettre en œuvre les mécanismes lui permettant d'atteindre les objectifs qui ont été commentés par mes et prédécesseurs. Le modèle de membre, d'adhérent, hein, comme vous le voyez sur cette diapo, est un modèle qui a été élaboré par le CCWG. Nous avons besoin d'une structure légale permettant à la communauté de faire appliquer toutes ces fonctions que nous essayons de donner à la communauté et par conséquent, cela sera... Ce modèle donc de membre adhérent est un modèle alternatif et afin de pouvoir mettre en œuvre ce modèle correctement, les différentes SO et AC seront capables de former des associations et d'incorporer des associations qui deviendront des membres d'ICANN. Et donc, si vous regardez sur cette diapo, vous pouvez voir que lorsque ces mécanismes vont commencer à mettre en œuvre, on aura une SO ou un AC qui va présenter une pétition. Ensuite, on verra si cette pétition répond à certains critères pour passer donc ce seuil, se franchir ce seuil. À ce moment-là, on aura une, si c'est le cas, on aura un vote et ce sera un vote auquel participeront les organisations membres et les structures. Et ensuite, cela passera par la décision de la communauté. Jusqu'à maintenant, nous avons une structure avec ces mécanismes de communauté pour les votes et chaque SO et AC aura un certain nombre de votes au sein de ces mécanismes et des pouvoirs seront établis, bien sûr, par la communauté. Ici, il y a quelque chose de très important pour la proposition, et c'est qu'il s'agit d'un modèle de membres adhérents. La communauté aura la possibilité légale de mettre en œuvre et de faire appliquer certains pouvoirs que nous essayons donc de donner à la communauté. Donc, si l'on parvient à avoir ce modèle de membres adhérents, à ce moment-là, les objectifs que nous essayons d'atteindre seront plus faciles à atteindre. Et nous allons passer à la diapo suivante et je vous parlerai des associations maintenant un incorporé. Afin d'organiser ce modèle de membres adhérents dont je vous ai parlé, les différentes SO et AC seront capables, pas obligés, mais capables, c'est très important, seront capables de former des associations dans le cadre de la législation californienne. Si ces associations sont en ligne avec ce que les structures donc indiquent comme exigence, ils auront une couche dans leur sein de leur structure destinée aux individus de la communauté ICANN. Et les associations, ce type d'associations non incorporées sont importantes pour cette proposition parce qu'elles seront ce qui permettra d'exercer différents pouvoirs et des droits de la communauté. Et un point important ici à souligner est comme je l'ai dit, les ASSO et les S et AC pourront former des organisations non incorporées si elles le décident. Bien sûr, les conseils légaux qu'ils recevront, c'est que toute organisation de soutien ou comité consultatif qui aura désigné des directeurs devra être sujette à former ce type d'association non incorporée pour continuer à avoir ses pouvoirs. Mais les SO et les AC qui ne désigneront pas de directeur pourront ne pas se former d'associations de ce type et continueront à participer au sein de la structure de l'ICANN, au sein de la communauté de l'ICANN, et de la même façon qu'elles le font actuellement. Bien, donc je crois que cela est clair. Les SO et les AC ne deviendront donc pas des associations non incorporées, mais il y aura un lien entre les assos et les AC, et les associations non incorporées qui seront donc capables d'exercer les différents pouvoirs. Et donc, cela va impliquer des changements, cela ne va impliquer aucun changement pour les individus ou pour les organisations qui ne veulent pas changer la façon dont ils participent au sein de la communauté de l'ICANN, mais, comme je l'ai dit, cela va donner la possibilité aux membres adhérents d'avoir d'autres pouvoirs et d'autres mécanismes pour réaliser leurs propositions. Bien, maintenant je vous donne la parole, je vais donner la parole au public pour, donc, s'il y a des questions. Je vois que Avos lève la main. Oui, Avos prend la parole. Je voudrais confirmer toutes ces SO et AC qui existent aujourd'hui seront des membres de la communauté, mais les associations non incorporées seront les seules associations qui auront le droit de désigner des directeurs. Ceux qui n'auront pas désigné de directeur ne seront pas associés dans le cadre, n'auront pas ce statut d'association non incorporée. Est-ce que c'est cela? Et merci beaucoup pour votre question. Et Kavous, oui, on suggère que ces SO et ces AC qui ont désigné des directeurs pourront ou seront plus en mesure de former des associations non incorporées si elles le souhaitent et si elles veulent constituer ce type d'association. Et donc, les SO et les AC qui n'auront pas désigné de directeur ou qui n'auront pas voté de directeur ne pourront pas former d'association non incorporée. C'est quelque chose de très important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les différentes SO et AC peuvent, mais ne sont pas obligées de former des associations non incorporées. C'est important pour respecter le modèle proposé que ces SO et AC qui souhaitent mettre en œuvre et exercer leurs droits et leurs pouvoirs forment des associations non incorporées parce que cet aspect légal leur permettra d'appliquer, hein, d'exercer leurs droits. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, dit Kavous, mais la question est que ceux qui n'ont pas désigné, qui ne sont pas des membres désignés et qui n'ont... Comment est-ce qu'ils peuvent exercer leur pouvoir s'ils ne sont pas des associations non incorporées? S'ils ne forment pas des sociétés non incorporées, comment peuvent-ils exercer leur pouvoir? Voilà ma question. Merci, Kavous. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui pourra être analysé, mais je ne voudrais pas entrer dans cet aspect de la question parce que nous avons besoin de recevoir les commentaires de la communauté et nous devons les faire parvenir à nos conseillers légaux pour qu'ils nous donnent leur réponse dans ce sens. Mais je vous dirai que les différents mécanismes et les pouvoirs qui ont été donc conçus tiennent compte des différentes voies, des SO et des AC qui seront des véhicules pour ceux qui seront des moyens pour ceux qui n'ont pas formé des associations ou des sociétés non incorporées, mais qui veulent participer. Bien, je vois qu'il y a des questions dans la salle de bavardage, dans le chat. Donc, je vais donner la parole à Tijani et ensuite je répondrai aux questions qu'il y a dans le chat. Merci, Léon. Je trouve que, comme vous l'avez présenté, on dirait que on les organisations peuvent devenir un membre d'ICANN sans créer une société non incorporée. Est-ce que vous pourriez expliquer mieux cela, éclaircir un peu ce point-là? Oui, je m'excuse, Tijani. Ma ligne n'est pas claire. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Oui. Tijani prend la parole. Je vous ai demandé de préciser si c'est une obligation de devenir une société non incorporée pour devenir un membre à part entière de l'ICANN. Merci Tijani, dit Léon. En ce qui concerne le modèle proposé, oui, ce serait obligatoire. Si les membres et le fait de devenir membre pour les SO et les AC, ce sera obligatoire d'établir une société non incorporée. Voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions qui sont sur le chat. Il y a une question de Rima Campillo. Si le CAC ne devient pas une association non incorporée ou une société non incorporée, est-ce qu'il pourra participer au processus de révocation du conseil, comme vous l'avez expliqué? Alors, c'est un petit peu la question que Cavus a posée, et je pense qu'on y a déjà répondu, et donc je n'y répondrai pas à nouveau. Je vois une question de Rina. Il y a première question. Si toutes les SO et AC forment des sociétés non incorporées, est-ce que cela va affecter les mécanismes de la communauté pour la mise en œuvre de ces décisions? Et comment est-ce que ces SO et ces AC seront capables de réaliser, d'appliquer ces mécanismes de la communauté? Comme je l'ai dit dans mon explication, le moyen légal pour exercer ces droits et pour appliquer, pour exercer ces pouvoirs ou appliquer ces droits sera cette création de sociétés non incorporées. Hein. Donc les SO et les AC qui ne veulent pas former ce type d'association non incorporée et n'auront pas ces mécanismes et pouvoirs. Deuxième question, quel est le calendrier raisonnable pour la reconsidération du budget et du plan? Et c'est quelque chose que la communauté va établir et c'est pour cela que nous essayons de demander de faire participer le plus grand nombre possible de gens à cette période de commentaires publics pour entendre la voix de la communauté et avoir un meilleur calendrier ou une meilleure idée des différents mécanismes que nous voulons ou que nous devons proposer. Et en ce qui concerne ce conseil, comment est-ce qu'il sera? Troisième question de Rinalia. C'est encore une consultation que nous devons faire avec la communauté. Mais à travers les différentes réunions que nous avons eues, nous avons discuté de la possibilité de mettre en place un conseil avec des membres principaux et secondaires désignés. Et bien sûr, il y aura des mécanismes qui devront établir la façon dont le budget et le plan opérationnel seront établis. Il y aura toujours un conseil en place. Et quelle sera la portée de leur ou l'envergure de leur pouvoir? Et c'est de nouveau un point qu'il faudra aborder. Je crois que Jordan a déjà répondu à ces questions dans le chat. Et c'est un processus qui doit être défini aussi. Bien. Je ne vois pas d'autres mains levées, ni d'autres questions dans le chat. Aaron a fait des commentaires. Une association a déjà été établie. Il ne faut pas recréer ce qui existe déjà dans le système. Je ne sais pas ce que vous voulez dire ici, Aaron. Deuxième chose, pourquoi est-ce que les pouvoirs proposés et ne peuvent pas être mis en œuvre sans et créer une association non incorporée, eh bien, c'est ce que la loi, la législation californienne établit. C'est pour ça que ces associations ou ces sociétés doivent être créées et sont donc figurent dans notre proposition. Voilà, c'est la façon la plus simple pour la communauté d'être capable d'établir ou d'appliquer ses droits et d'exercer ses pouvoirs. Par conséquent, il faut se souvenir qu'il y aura beaucoup de modèles qui seront discutés au sein de nos réunions et de nos appels, et ces deux modèles qui sont les modèles donc de membres et adhérents, et l'autre modèle, hein, sont les modèles qui, selon nos conseillers légaux, seraient les meilleurs pour atteindre les objectifs que nous proposons. Je vois que Cabos lève la main. Cabos, vous avez la parole, allez-y. Oui, Léon, vous avez dit, vous avez déjà un petit peu répondu, mais je voudrais reprendre cette question concernant le GAC. Est-ce que le GAC ne pourra pas participer en tant qu'association non incorporée, ou est-ce que il ne pourra pas avoir le pouvoir de limoger le conseil de direction? Hein? La question est donc, est-ce que le GAC ne pourra pas exercer ses pouvoirs pour limoger les membres du conseil seulement, ou est-ce qu'il n'aura pas d'autres droits? Est-ce que le GAC pourra participer en tant que association ou société non incorporée pour modifier les statuts, pour limoger le conseil? Si vous n'avez pas de réponse à cette question, dites-le-moi, parce que le GAC doit savoir s'il a des pouvoirs ou pas, puisque nous ne désignons pas de directeur. Et à ce moment-là, et nous voulons savoir si nous avons des pouvoirs et pour limoger le conseil ou pas. C'est important et c'est un point dont nous devrons discuter, car à ce moment-là, si le GAC n'a pas ce type de pouvoir, puisqu'il ne désigne pas un directeur, il n'aura pas ce type de fonction de pouvoir. Merci. Merci, Cabos, dit Léon. Je ne veux pas répondre à cette question et je vais demander à notre conseiller légal de répondre à cette question. C'est une question très utile et vous pouvez la poser pendant la période de commentaires publics. Comme ça, nos conseillers légaux y répondront. Il n'y a pas d'autres questions apparemment. Et vu l'heure, je vais donner la parole à Mathieu Veil, notre coprésident, pour la prochaine diapo. Mathieu, vous avez la parole. Merci beaucoup, Léon, dit Mathieu Veil. Comme je suis responsable d'aborder un des aspects clés de la présentation concernant les pouvoirs de la communauté, je vais vous demander et de donc analyser cette autre diapo qui porte sur les mécanismes, sur les processus de révision indépendants. Donc notre groupe de travail a travaillé avec Becky qui n'est pas sur cet appel aujourd'hui, mais je vais vous présenter cette recommandation. D'abord, le premier point clé dans notre proposition intérimaire est de renforcer le processus de révision indépendant d'ICANN qui s'appelle IRP, qui est un des aspects clés du système de responsabilité d'ICANN existant. Notre groupe suggère que l'on fasse des améliorations à ce processus. Ces améliorations consisteraient à permettre à un panel qui va réviser des cas concernant la conformité substantive et procédurale, et pas seulement sur la procédure, il deviendra plus accessible à toutes les parties prenantes en termes de la façon dont on peut donc faire une demande d'IRP. Il sera moins cher et il sera basé sur un nouveau panel permanent. Si vous pouvez passer à la prochaine diapo, je vous donnerai davantage de détails sur ce nouveau système d'IRP. Voilà la prochaine diapo. Donc voilà les caractéristiques de ce panel. Un processus de révision indépendant qui serait basé sur un panel, un comité composé de 7 membres qui seraient indépendants de l'ICANN, y compris des SO et des AC et des parties prenantes principales. Ils auront un mandat, ils seront payés par ICANN, ils seront sélectionnés en fonction de leur expertise au niveau et en tant qu'arbitres internationaux, et il y aura des critères culturels et de géographie de diversité géographique à appliquer dans leur sélection. Le processus de sélection a été donc établi. Il y aura un système de nomination par des tierces parties internationales et des organisations donc d'arbitres, et le conseil d'ICANN fera la sélection des membres de ce panel qui sera confirmé par la communauté. Et donc c'est le processus qui permettra à ces membres d'être des membres indépendants qui seront donc confirmés par le conseil et par la communauté. C'est assez semblable au système, au processus que nous avons. Donc, la prochaine diapo décrit le processus de l'IRP. Donc, toute personne qui sera affectée par les actions ou les réactions d'ICANN déclarant que ICANN a agi et a violé ses statuts, et y compris sa mission et de valeurs clés et de la politique d'ICANN, on pourra à ce moment-là lancer ce processus. Une fois que l'on aura résolu présentation peut être faite, elle sera présentée au panel IRP, le processus sera suivi et il sera donc présenté au panel. Sur cette diapo, vous voyez donc la façon dont fonctionneront les différents pouvoirs. Les 7 membres de ce panel, en fonction du cas, on aura une ou trois personnes qui s'occuperont de cette affaire. En fonction de la gravité de l'affaire, il y aura 7 types de décisions, différents types de décisions. Il y aura une manière d'annuler la décision aussi, de manière totale ou partielle. Cela sera donc réglé dans les délais et la décision sera documentée et on créera un système de précédent ou de juridiction qui permettra à ce panel de créer davantage de stabilité, de prédictibilité dans le processus de prise de décision. Voilà, donc ce serait l'amélioration et réalisée dans ce processus de révision indépendante et tel que nous le soumettons. Prochaine diapo. Ici, vous allez voir la réforme de ce processus de reconsidération. Ici, il ne s'agit pas d'un processus obligatoire. Ce que nous proposons ici, il s'agit de la compétence de cette demande pour améliorer les actions ou les inactions qui permettent de mettre en place ce type donc de demande. Les suggestions et les propositions incluent le type de décision, la transparence dans ces processus et bien sûr le fait de fournir au conseil la possibilité de reporter l'ensemble du processus. En ce qui concerne la composition, il y aura davantage de participation des membres du conseil et la prise de décision. Et tout cela dépend du conseil légal de l'ICAN. La transparence et la prise de décision, une amélioration de la transparence est décidée et une possibilité de réfuter aussi. En ce qui concerne l'accessibilité, on va prolonger la possibilité de demande de reconsidération de 15 à 30 jours. Donc, nous avons ici vous voyez ici les questions qu'il faudra aborder et vous avez la liste de questions concernant le processus indépendant et les participants clés qui veulent avoir davantage de détails sur ce point auront la possibilité de trouver ces détails. Et s'il y a des questions sur cette partie de ma présentation, je vois Madame qui décide s'il y aura des panels de deux membres ou de trois membres ou d'un membre. Je pense que l'idée à l'origine était que le panel lui-même sélectionnerait et l'affaire et déciderait si c'était une affaire nécessitant un membre ou trois membres du panel et que cette procédure, une des parties est capable de demander un panel de trois membres plutôt qu'un panel de un membre. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez donner votre opinion au sein des commentaires publics. Je vois qu'il y a une question de Réma.
Réma, la question était si la communauté pourrait participer pendant la période et pas à la fin de cette période. Je pense que ce serait important pour la communauté de pouvoir participer avant la fin même de la période. Je pense que Carous lève la main pour qu'il veut poser une question. C'est bien ça, Carous? Carous, on ne vous entend pas. Non, Carous, on ne vous entend pas. Alors, pendant que vous travaillez pour résoudre cela, Carous prend la parole. Oui, je disais que la semaine dernière, on a eu un autre appel et que pendant cet appel, il a été dit que pendant la réunion numéro 63 de la CAN, le GAC inviterait le CWG et le CCWG. Alors, on se demandait s'il serait possible que le conseiller juridique assiste à cette réunion pour répondre à certaines questions que j'ai posées aujourd'hui, par exemple, que le CWG et que le CCWG ne pourraient pas répondre, étant donné leur nature juridique. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, considérer cela, considérer cette possibilité d'avoir le conseiller juridique disponible pendant cette réunion pour qu'il réponde à nos questions? C'est ça qu'on m'a demandé. Et je voudrais vous relayer cette question. Merci. chaleur. Je vous remercie de cette demande formelle du conseil formel du DIAC. Alors d'abord, il y a cette question de différence entre IRP qui est conçu comme mécanisme contraignant, dont les décisions seront contraignantes pour le conseil d'administration, alors que le conseil va faciliter échanger sur certaines questions. Et il travaillera sans doute pour fournir des conseils supplémentaires. Ce n'est pas un remplacement. Alors la question de pouvoir aborder les conflits d'intérêts, par exemple, au sein du conseil, correspond aux membres du conseil dont les décisions ne sont pas considérées comme ayant des conflits d'intérêts. On a remédié cela dans notre proposition initiale. Alors, je suis sûre que les contributions que vous auriez à faire sont tout à fait valables. Cela dit, je vais maintenant passer à la partie suivante de notre séminaire web et passer la parole à Cheryl Langdonor, qui préside le groupe de travail sur les tests de stress pour la partie suivante de notre présentation sur l'affirmation d'engagement et les révisions de ces affirmations. Cheryl, allez-y. Cheryl Langdonor prend la parole. Merci, c'est vrai que je suis chargée du groupe de travail qui s'occupe de ces tests de stress. Mais on s'occupe de certains autres aspects qui me semblent qu'on devrait considérer également. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. C'était Thomas au micro. Steve voulait prendre la parole, c'est bien ça? Steve, êtes-vous là? Je prends la parole. Bon, normalement, Steve était là. Ça a-t-il enmué? Dit Thomas. Vous m'entendez maintenant? C'est Steve de Bianco qui prend la parole. Oui, Thomas Ricard, on vous entend. Steve de Bianco prend la parole. Bien, je m'excuse. Alors, la diapo numéro 20 montre que l'ICANN pourrait conclure ou résilier leur contrat avec la NTIA. Alors, l'affirmation d'engagement est un accord entre l'ICANN et la NTIA disant que l'accord pourrait être résilié avec 20 jours de préavis. Alors, on travaille sur différents tests de stress qui ont suggéré que si l'ICANN quittait ses affirmations d'engagement et que l'ICANN ne serait plus engagée pour assurer la fourniture des fonctionnaires, il se pourrait que ces révisions périodiques ne seraient plus nécessaires. Alors, on a des outils de responsabilité plus tangibles pour nous en tant que communauté qui ne seraient pas respectés si ces affirmations d'engagement n'étaient plus respectées. Alors, on a essayé de déterminer comment on pourrait améliorer, renforcer ces affirmations d'engagement. Et à travers les commentaires que nous avons reçus, on s'est dit qu'il faudrait que l'on ait une période précoce, un enregistrement précoce, tous les enregistrements pour toutes les affirmations. Il va falloir que nos propres membres intègrent des équipes de révision, au lieu que ce soit le président du CAC ou le président de la CAN qui approuve les affirmations des membres individuels. Il faut assurer qu'il y ait un niveau de transparence minimal. Et donc, il faudrait qu'il y ait un groupe de révision de transparence des affirmations, non pas à travers l'ADRD, et que l'on crée un nouveau programme pour assurer cela. Les équipes de révision se sont plaintes du fait qu'ils n'ont pas accès aux documents internes. Donc, nous essayons d'améliorer de manière dramatique cela. On considère également l'approbation et la mise en place des recommandations des révisions précédentes aussi. mais le conseil d'administration a décidé de ne pas mettre en œuvre les recommandations de l'équipe de révision. Pensez donc au pouvoir que décrivait Léon, par exemple, tout à l'heure. La communauté n'aurait plus le pouvoir de rejeter la décision du conseil d'administration de modifier un statut constitutif, par exemple, un article des statuts, ou même de rejeter les modifications. Si vous avez des questions sur les spécificités de cette diapo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les poser à ce point-là. Bien, on passe alors à la diapo suivante. Cheryl, est-ce que vous voulez prendre la parole pour expliquer ce test de stress? Cheryl prend la parole. C'est bien Steve, vous pouvez continuer vous-même. Steve prend la parole, bien, merci. Alors, je vais accélérer un peu parce qu'il nous reste peu de temps, je sais. Le test de stress compte comprendre si les mesures de responsabilité pour la transition pourraient donner à la communauté le pouvoir de rejeter une décision du conseil d'administration ou de limoger un membre du conseil d'administration. Si l'ICANN a des crises externes ou internes, par exemple au début de mai l'année dernière, il y a eu un test de stress de ce type qui a été fait pour justement évaluer l'affirmation d'engagement. Mais il y a eu d'autres tests de stress. Alors, le CWG et le CCWG se sont réunis et ont évalué les différentes affirmations et les scénarios pour les affirmations, justement. On parlait de responsabilité, d'échec, de corruption, des attaques cybernétiques, par exemple, et un grand nombre de cas différents qui auraient pu avoir lieu, mais à travers l'équipe de travail des tests de stress, nous avons évalué les différentes possibilités et nous avons mis en œuvre certains mécanismes de responsabilité qui assuraient que les mécanismes de responsabilité proposés soient respectés. Alors, à ce point-là, on n'a que des propositions préliminaires qui sont pour l'instant pas officielles. Mais l'idée des tests de stress est en tout cas d'identifier où on a des fossés, où il faut combler des fossés pour que la communauté ait des mécanismes de responsabilité qui assurent la réduction de compte envers eux. Alors, si vous avez des questions à ce point-là, vous pouvez les poser, bien sûr. Alors, je m'excuse avec vous tous. Je sais que je n'aurai pas le temps d'entrer dans davantage de détails sur les tests de stress. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai à dire pour l'instant. S'il n'y a pas de questions, on passe alors à la diapo suivante. Je pense qu'on devrait maintenant passer la parole à Mathieu, n'est-ce pas? Mathieu Bell prend la parole, merci. Nous sommes déjà aux dernières deux diapos. Alors, la diapo numéro 22 porte sur le rapport avec le groupe intercommunautaire de la supervision, CWG Stewardship. Il y a un niveau de coordination entre notre groupe et le CWG Stewardship. Et nos propositions initiales comprennent les mécanismes de rémédiation et les attentes clés du CWG. Alors, d'une part, si le CWG demandait de la transparence par rapport au fonctionnement et de la transparence en ce qui concerne l'allocation de coûts, la communauté devrait avoir la possibilité de réviser et de rejeter le budget de l'ICANN, par exemple. Donc, c'est un cas. D'autre part, on a des mécanismes d'autonomisation de la communauté. C'est que le CWG a noté qui va dépendre de la capacité de la communauté de réviser certaines décisions du conseil d'administration, particulièrement lorsqu'il s'agit de décisions sur la conformité avec les recommandations des différentes révisions de performance de IANA qui seraient faites 2 ans après la transition pour la première fois et au moins tous les 5 ans. Cela est fourni à travers l'IRP, avec également la possibilité et le fait qu'il y a une disposition dans nos recommandations pour que le conseil d'administration prenne des décisions de mettre en œuvre ou pas des recommandations de l'équipe de révision dans un délai spécifique. Numéro 3. Le CWC a suggéré que l'on crée une nouvelle équipe de révision pour qu'elle s'occupe de la révision, comme par exemple le font l'équipe de transparence et de responsabilité. Et comme disait Thomas Ricker tout à l'heure, cette proposition serait faisable. Et puis, le CWC considère que l'IRP et d'autres processus de révision renforcés ne devraient pas comprendre des mécanismes pour ce qui comprend les décisions de révocation, par exemple, et pour la délégation et la redélégation. Alors, d'après nous, nous avons couvert les attentes du CWC pour ce qui est des propositions de délégation et redélégation. Diapositive suivante.
Bien. Alors, une des questions posées par Cabos sur donc le calendrier, le commentaire public au mois de actuel va nous permettre d'arriver à Buenos Aires avec une analyse préparée des contributions de la communauté que nous recevrons au cours de cette période de commentaires publics. Les discussions ensuite auront lieu à Buenos Aires entre les différentes communautés et nous aurons de nouveau une autre période de commentaires publics. Et il y a un problème sur cette diapo. La deuxième période de commentaires publics sera de 40 jours. Hein, et ensuite, nous pourrons présenter aux SO et aux AC une recommandation de l'axe de travail numéro 1 avant la réunion de Dublin. Cette diapo montre aussi que nous avons un certain temps pour la mise en œuvre et pour que le rapport initial doit aborder quelques réflexions sur la façon dont nous allons pouvoir mettre en œuvre ces recommandations. Et cela est clair pour le personnel. Cela a été réévalué par Larry Stricking dans sa communication récente. Et le NTIA travaille sur la proposition et de façon à ce que tout cela soit analysé avant la transition des fonctions. Il y en a, vous voyez sur cette diapo que nous considérons un calendrier pour la mise en œuvre qui commence qui continue jusqu'au mois d'août 2016. Nous essayons d'évaluer la durée de la mise en œuvre aussi et de nos décisions. Hein. Et je vais maintenant donner la parole au public pour les questions. Nous sommes légèrement en retard. Donc, Thomas, et si vous voulez, nous passons à la session de questions et de réponses. Merci et beaucoup. Nous allons donc passer à la session de questions et de réponses, dit Thomas. Nous pouvons répondre à vos questions et en analysant d'abord le thème sur lequel porte la question. Si vous avez aussi des questions à nous poser, vous pouvez le faire par écrit. C'est important en tout cas d'entendre un petit peu vos commentaires. Cabous, demande la parole. Cabous, vous avez la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Bien. Le président de l'ICG, vous parlez du calendrier, l'ICG, vous parlez d'octobre, de novembre. Maintenant, vous nous dites que vous avez besoin de 6 mois de plus jusqu'au mois d'août 2016 pour finir donc la présentation. On parlait pour l'ICG de octobre-novembre, vous parlez de l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, est-ce que vous le considérez pour toute la mise en œuvre? Et oui, vous avez raison, Cabo, c'est correct. Nous avons analysé le temps dont nous avions besoin pour préparer une version préliminaire des statuts, le temps nécessaire pour mettre en œuvre les suggestions concernant les changements et des statuts et le temps nécessaire pour former des sociétés non incorporées. Et donc, tout ce calendrier comprend tous ces aspects. Pour être sûr que nous couvrirons tous les aspects, je voudrais savoir s'il y a des remarques générales sur l'approche en général, sur les mécanismes appliqués. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne l'architecture de responsabilité, cette nouvelle architecture de responsabilité pour la communauté? Et la première question que je voudrais vous poser, je ne vois pas de commentaires, je pense que c'est un bon signe. Bien, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser. Si vous avez des questions concernant maintenant les pouvoirs de la communauté dont nous avons parlé et les processus qui ont été décrits par Jordan, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires là-dessus? Cabos? Pas de questions, mais Léon m'a dit qu'il fallait discuter pour voir à propos du conseil. Je crois qu'il faut être très clair pour cette question des directeurs désignés pour savoir si le GAC aura les droits et donc de limoger le conseil dans son ensemble. Je pense qu'il y a un certain manque de cohérence parce que si nos membres n'ont pas le droit de désigner de directeur, ce numéro, ce chiffre que vous avez donné de 29 n'est pas cohérent. Donc, il faut donner une réponse à ces deux questions que j'ai posées. Merci, Kaboul, vos questions ont été notées et nous y répondrons bientôt. Est-ce qu'il y a des questions concernant les statuts fondamentaux tel que nous avons suggéré? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque dans la partie légale ou dans les statuts? Si vous pensez qu'il manque quelque chose, c'est le moment de le dire. Nous avons aussi discuté du processus de révision indépendante et du processus de reconsidération. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment solide? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des questions à propos du test de stress? Il n'y a pas, apparemment pas de questions. Avant de donner la parole à Léon pour conclure, je voudrais vous remercier pour votre intérêt et sur notre travail. C'est un sujet très important. Il nous reste 2 minutes sur cet appel. Nous ne sommes pas en retard. Je donne la parole à Léon. Merci. Léon Sanchez prend la parole. Cette période de commentaires publics est très importante pour le succès du travail de la communauté de l'ICANN à ce stade. Donc nous encourageons tout le monde a participé à la période de commentaires publics, à en parler au sein de vos communautés, de façon à avoir une participation très riche de tous les secteurs de la communauté de l'ICANN et de la communauté extérieure à l'ICANN qui sera intéressée aussi à participer à ce travail sur la responsabilité de l'ICANN. Nous vous encourageons à lire l'ensemble du document de la proposition et nous vous rappelons qu'il y a différents outils qui ont été mis en place. Donc, pour que la compréhension de ces propositions soit plus aisée, et il y a des graphiques qui ont été conçus que vous trouverez sur le site internet de notre groupe de travail. Et cette diapo vous permettront de mieux comprendre le document, mais de toute façon, il vous faut lire la proposition. Nous vous recommandons de lire la proposition dans son ensemble. Si vous voulez participer à cette période de commentaires publics, vous devez lire ce document et nous donner votre opinion. Et nous tiendrons compte de votre opinion et nous inclurons les commentaires dans la prochaine proposition. Il va y avoir un autre webinaire qui aura lieu cet après-midi. Si vous voulez et participer à ce prochain webinaire. S'il y a des membres de votre communauté qui n'ont pas participé à ce webinaire, encouragez-les à le faire lors de ce prochain webinaire. Merci à tous. Merci.
There are only 1 people in this conference. This call will be disconnected unless you press 88 now.